Petite info locale.
Le magazine.
Bonsoir, bienvenue dans L'Onde Noire, l'émission sur l'actualité du polar d'Agora FM.
Présentée par Jacques.
Et Corinne.
Bonsoir, donc il est dans l'actualité de cette mi-novembre. Nous sommes très heureux de pouvoir réévoquer un livre dont nous vous avions parlé avec enthousiasme au printemps, car il vient de se voir décerner, si je ne m'abuse, trois voire quatre prix, oui, en un mois. Donc ce livre dont nous allons parler en cette première partie, c'est Garden of Love, paru aux éditions Zulma, et l'auteur en est Marcus Malte, qui est, je crois, parmi nous pour en parler. Bonsoir Marcus.
Oui, bonsoir.
Donc, quatre prix en un mois, et deux prix auparavant, le prix Michel Lebrun au mois d'octobre, le prix Cannes Polar il y a une semaine, et enfin deux prix au très grand festival qui s'est passé à Vienne il y a quelques jours, le prix des lycéens et
le prix goutte de sang des lecteurs de l'Isère.
Donc prix amplement mérité, c'est un livre qui est un de nos chouchous et qu'on a beaucoup défendu. Quand j'en ai parlé la première fois, et je crois que d'ailleurs beaucoup de journalistes avaient mis un petit peu la même chose, on disait que l'intrigue était très difficile à raconter. Alors, puisqu'on tient l'auteur, est-ce que vous pourriez nous donner votre version et nous donner un résumé au moins du début de l'intrigue ?
Oui, effectivement, c'est un livre plutôt difficile à raconter. En fait, en règle générale, moi, je redoute un peu ce moment où on me demande de quoi ça parle, votre bouquin, c'est quoi l'histoire, tout ça. Ça me fait ça pour tous les romans, pour celui-ci peut-être en particulier, parce que c'est vrai que l'intrigue est un peu complexe. Et en fait, je crois que c'est surtout la construction, finalement, le déroulement du récit qui est peut-être plus complexe que l'histoire en elle-même.
On a l'impression d'un livre gigogne, excusez-moi.
Oui, non, c'est un peu ça, c'est vrai. Peut-être pour aller un peu vite, moi il me semble que c'est ça raconte en fait les relations de deux hommes. Donc l'un est un flic complètement à la dérive, complètement sur la touche, et l'autre est un assassin. Et donc ces relations entre ces deux types sont basées sur la fascination, sur la manipulation, sur des choses comme ça. Et donc on va se rendre compte que ces deux destins sont étroitement mêlés finalement, et que l'existence de l'un va fortement influencer l'existence de l'autre et vice-versa, quoi. Alors je sais pas si vous êtes plus avancé une fois que j'ai dit ça, mais...
Non, je trouve que c'est une très jolie façon de parler donc d'Alexandre Astruc, qui est un flic complètement paumé que l'on découvre au début du roman, et d'Ariel Dames, qui lui envoie un manuscrit, voilà. Qui raconte, mais je ne veux pas en dire plus, parce que c'est une des grandes qualités de ce roman que de découvrir au fur et à mesure des pages ces deux destins. Alors justement, est-ce que vous avez déjà, au départ, l'idée du roman, c'était cette histoire, ou plutôt un des personnages ou ces deux personnages ?
Non, en réalité, j'ai rien du tout au départ. C'est comme pour la plupart des bouquins que j'ai écrits. Avant de raconter mon histoire, je sais pas du tout ce que je vais raconter, quoi. Donc ça veut dire que j'ai pas de sujet en particulier. J'ai même pas d'idée. J'ai pas de personnage non plus. J'ai rien en gros. Et donc je me jette dans le vide et je commence quelque chose. Et c'est finalement moi-même, je vais découvrir au fur et à mesure l'histoire que je raconte, quoi, tout simplement. des choses qui arrivent comme ça au fil de la plume, et puis petit à petit ça me dévoile à moi-même une intrigue, et puis en fait je m'adapte au fur et à mesure aux événements qui se passent, tout simplement, quoi.
Mais ceci dit, quand même, à un moment donné, il y a un personnage qui tourne quand même un peu. Donc, il parle, un tel a 33 ans, moi j'ai 37 ans. Je sais pas, on a l'impression que ça cristallise pas mal de choses qui tournent peut-être dans la tête d'un écrivain. Donc, peut-être que ça a été aussi une des façons de...
Faut pas confondre, hein, faut jamais confondre, je le dis souvent, l'auteur avec les personnages.
Heureusement, dans ce livre.
Oui, heureusement, effectivement, dans celui-ci et même dans la plupart des autres romans. Alors, il y a peut-être des choses de moi qui ressortent, évidemment. On n'écrit pas à partir de rien, c'est-à-dire le matériau, c'est tout ce qu'on a pu vivre, tout ce qu'on a pu ressentir au cours de sa vie, tout ce qu'on a pu voir, entendre, etc. Et tout ça, ça va être déformé, trituré, pour après... être régurgité, on va dire, à travers une histoire, quoi. Mais l'histoire en elle-même, l'intrigue, je la connais pas avant de l'écrire.
D'accord. Et donc, comme j'ai essayé de le dire, mais assez maladroitement au début, Alexandra Struck, le flic, va être va prendre en plein dans la poire un manuscrit qu'il reçoit. Et qui va lui rappeler Ariel Daines, qu'il a longtemps poursuivi pour une série de meurtres, mais qu'il n'a jamais réussi à coincer. Alors, donc on a le récit au présent, le récit au passé, le personnage Alexandra Struck, et il y a ce manuscrit. Est-ce que c'était pour vous une manière de vous amuser à différents types d'écriture? Vous venez de nous dire que vous n'aviez aucun a priori au départ, mais... est-ce que ça vous amuse de mélanger comme ça les styles, les différents types de narration?
Mais en fait, c'est un peu l'histoire justement qui m'a imposé ça. C'est-à-dire, effectivement, il y a plusieurs personnages et tous ces personnages racontent leur version de l'histoire. Ils le racontent à la première personne à chaque fois. Et donc, forcément, comme c'est raconté à chaque fois par un personnage différent, et ben ces gens-là ne s'expriment pas de la même manière. Donc, chaque fois qu'il y a un personnage qui va dire « je », donc qui va raconter, ça sera sa façon à lui de raconter. Donc, je me sens obligé, ça me paraît logique que chaque personnage s'exprime à sa façon. Alors après, les différences de ton, les différences d'expression sont... plus ou moins subtiles, mais elles existent. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi un moyen pour le lecteur de pas trop se perdre. Si on a vraiment une lecture attentive des choses, on se rend compte de ces nuances, justement, et on peut savoir à chaque fois qui parle, qui raconte.
Presque. Il y en a quand même deux. On sait pas trop. Comme vous l'avez dit.
Surprise aussi, c'est sûr.
Comme vous l'avez dit vous-même, donc c'est un roman avec un petit peu labyrinthique, qui donne souvent avoir des miroirs déformants, qui donne des aspects différents de la réalité. Est-ce que vous-même, on en a un peu parlé au tout début, à des moments vous vous êtes dit, ah non, ça va pas, je vais partir vers là ou vers là-bas et ça va finir totalement différemment? Très souvent, on a l'impression qu'on se retrouve à une croisée des chemins, voire des destins.
En fait, je crois que le personnage du flic, à un moment, résume plutôt pas mal le truc. C'est-à-dire, quand il parle du récit, il reçoit donc ce manuscrit, et d'après lui, il dit qu'il est divisé en trois parties. Enfin, il est divisé en trois, c'est-à-dire qu'il y a une partie réalité, un tiers réalité, un tiers mensonge et un tiers délire. Et en fait, je crois que le lecteur finalement va un petit peu se retrouver dans la même position que ce flic et il va devoir faire la part des choses, quoi. Qu'est-ce qui est la réalité? Qu'est-ce que le mensonge délibéré vraiment dans cette histoire? Et puis qu'est-ce qui est le délire? C'est-à-dire déformation de la réalité, mais une déformation presque maladive, quoi, on va dire.
Mmh. Donc justement, vous avez parlé du lecteur, toutes ces choses trappes, toutes ces voix sans issue, même si effectivement le style nous éclaire beaucoup à certains moments. Est-ce que vous avez pensé à ces lecteurs qui allaient parfois, de temps en temps, être un petit peu séparés justement en plusieurs personnages, en plusieurs pensées? Est-ce qu'on pense souvent à l'autre qui va être de l'autre côté du miroir et qui va lire?
Non.
Non.
Moi, j'y pense pas parce que, d'abord, je suis jamais sûr d'avoir des lecteurs. Donc, je peux pas vraiment y penser. Non, enfin, en tout cas, on n'y pense pas quand on écrit. On peut y penser éventuellement. J'y ai pensé, disons, quasiment quand le livre était terminé. Oui, j'essayais de me dire, est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce que on va s'y retrouver? Ce genre de choses, mais quand on écrit, non. Moi, je suis dans la peau des personnages, en gros, je suis dans l'histoire et je pense pas à ce que un éventuel lecteur va pouvoir en penser plus tard. Mais comment dire, le seul juge finalement au moment où j'écris, ça peut être que moi, quoi. Je vois pas, parce qu'en plus, les lecteurs au pluriel, ça veut pas dire grand chose. Je veux dire, je pense que chaque lecteur va avoir sa propre lecture à partir de sa propre imagination, de sa propre intelligence, de sa propre sensibilité, etc. Donc si je peux pas me dire les lecteurs, ça veut pas dire grand chose, quoi.
C'est pour ça d'ailleurs que j'avais bien précisé à l'autre au singulier.
Ouais.
Puisque l'autre et aussi multiple. Alors justement, multiple, on a parlé du personnage d'Alexandre avec ses trois facettes. Un mot qui est souvent venu à l'esprit en parlant de ce livre, c'est le mot schizophrénie, entre la schizophrénie temporelle du passé, du présent, et puis de certains personnages. Et c'est pas nouveau dans votre œuvre. Dans les précédents romans, comme dans La part des chiens, on a souvent ces dédoublements, voire détriplements. Est-ce que c'est un aspect de l'âme humaine que vous avez envie de creuser dans vos livres?
Ben, moi, il me semble que l'être humain est d'une complexité fascinante. C'est-à-dire que, à mon sens, personne n'est bâti de tout d'une pièce, quoi, tout d'un bloc. Alors, sans parler forcément de dédoublement de personnalité ou ce genre de choses, mais je crois qu'on a, chacun d'entre nous, a de multiples facettes dans sa personnalité, et c'est intéressant de voir quelle facette finalement va ressortir selon les circonstances, selon le contexte dans lequel on est placé. Donc ça, oui, ça m'intéresse beaucoup, quoi. Un exemple frappant, par exemple, puisqu'on est dans le polar, ce genre de choses, quand on parle des tueurs en série, souvent, quand les flics mettent la main sur un de ces tueurs, donc ça peut être un type qui a tronçonné 30 personnes, mais les voisins qu'il connaissait, qu'il voyait tous les jours, ils nous disent « Oh là là, c'est incroyable, il a l'air tellement charmant, adorable, etc. » Et oui, en même temps, c'est ça qui est fascinant, c'est que ce type peut être à la fois un voisin adorable, charmant, et en même temps un type qui commet des atrocités incroyables. Et oui, ces multiples facettes de chaque être humain m'intéressent énormément, ouais. Alors effectivement, peut-être que dans ce roman, je me suis un petit peu amusé à creuser ça, quoi, à pousser un peu les choses à leur paroxysme, et voir si vraiment on avait des personnalités multiples, jusqu'où ça peut conduire, quoi.
Alors, personnalité multiple, un personnage absolument fascinant, c'est celui dont vous faites référence pour le titre, c'est William Blake, qui est un poète et un peintre anglais du XVIIIe siècle, qu'on a considéré comme fou depuis. On revoit un peu cette vision. Garden of Love, c'est un de ses poèmes. Le titre, j'ose plus vous demander comment vous l'avez trouvé et comment, si c'est venu a fortiori ou...
Bah oui, ça fait pareil. C'est comment dire, quand je disais que je m'adapte à ce qui peut arriver dans l'histoire, voilà, c'est ça. William Blake, pour être très franc, je suis pas du tout un spécialiste des poètes anglais, et encore moins de William Blake. Mais au cours de l'écriture, je suis tombé sur une... Je cherchais autre chose, finalement, et puis je suis tombé sur une un extrait de poème de William Blake, et je me suis dit que ça collait parfaitement au truc. Donc j'ai utilisé ça. Et voilà, alors sans doute que c'était un type qu'on considérait un petit peu comme un fou, mais finalement, on se rend compte qu'il y a pas mal de...
Il y en a beaucoup.
De génies ou de créateurs qui sont au départ considérés plus ou moins comme des... zinzins, quoi. Donc, celui-ci aussi. Mm. Et c'est quoi la question?
Non, mais la réponse revient parfaitement. Simplement, moi non plus, je suis absolument pas une spécialiste de William Blake, même si c'est une personnalité très intéressante. Et ce qui m'a quand même un petit peu frappée, c'est que en faisant quelques recherches, il disait souvent, apparemment, qu'il préférait les visions intuitives à la raison. Et je suis très étonnée de voir comment ça colle avec le début de ce que vous nous avez dit à propos de votre façon d'entamer ce roman. C'est-à-dire les romans que vous écrivez. C'est-à-dire que vous suivez vos personnages, il y a quand même...
Mais c'est vrai, je laisse une grande part d'intuition dans l'acte d'écrire. Je sais pas, je suis pas du tout un intellectuel, je pense. Donc, comme je vous dis, j'ai pas de thème a priori à développer dans un roman. Donc, je forcément quelque part, je suis obligé de me laisser aller et puis de. Alors, je veux pas non plus faire celui qui a l'inspiration tombée du ciel, etc. C'est pas du tout ça, mais. On est dans une espèce d'état, enfin je suis dans une espèce d'état où je suis peut-être plus apte à capter certaines choses quand j'écris en tout cas, et puis à les faire ressortir sans trop réfléchir finalement au départ en tout cas. Donc c'est vrai, l'instinct c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans la création, plus que le truc, enfin plus ou en tout cas au moins autant que la réflexion, vraiment, etc., quoi. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai du mal à raconter, finalement, ou à expliquer les histoires que j'écris.
Vous les décrivez pas si mal que ça, et ouais. Ça donne en tout cas envie d'aller plonger dans vos lignes. Juste, William Blake disait aussi, décidément, je fais beaucoup de citations, « L'imagination n'est pas un état, c'est l'existence humaine tout entière. » Ça résumerait assez bien votre façon d'écrire des livres, finalement. C'est-à-dire que, finalement, il y a un chemin qui se trace au fur et à mesure des lignes.
Il y en a peut-être un, mais en tout cas, moi, je suis pas vraiment sûr de le connaître vraiment, de le discerner vraiment. Moi, j'avance, j'écris. Tout ce que je peux dire, c'est que ma première intention, disons, ça paraît tout bête, mais c'est de raconter des histoires avant tout. Et à travers ces histoires, qu'est-ce que je cherche? Je cherche à toucher les gens, tout bêtement, c'est-à-dire à provoquer finalement des émotions chez eux, parce que peut-être que les histoires que je raconte, moi, me touchent d'une certaine manière, m'émeuvent, donc j'espère partager ces émotions avec les lecteurs. Et à la fois, je veux dire, c'est tout, mais en même temps, je trouve ça déjà énorme. Quoi,
c'est si très important.
Voilà, si j'arrive à ce but, quoi, à atteindre ce but, j'en serai ravi. Voilà, et puis, donc pour en revenir à Blake, je ne sais pas si l'existence humaine est tout entière n'est qu'imagination, mais... si c'est le cas, peut-être que finalement, tout ce qui reste, justement, ce sont les sentiments, quoi. Alors, autant creuser là-dedans.
Ben, je crois que ça va être une très, très belle conclusion à notre interview. Et effectivement, je crois que c'est une des choses qu'on aime particulièrement dans vos livres, c'est toutes les émotions qu'elles nous apportent, et parfois aussi d'arriver à trouver des mots écrits alors que nous, on ne sait pas exprimer ces mots, y compris à les dire comme ça. Donc, on va rappeler dans la prochaine partie le titre de ce livre et des précédents. La suite, il y en a un en gestation?
En gestation, plus ou moins. Il y a un bouquin qui devrait sortir au mois de février. chez Syros, qui s'appelle un livre qui s'appelle Scarel.
Donc ça, ce serait plutôt dans la littérature.
C'est plutôt dans la littérature jeunesse. Mais dans la vieille jeunesse, c'est-à-dire les grands adolescents, et moi je pense que c'est aussi pour les adultes, donc j'espère qu'il y aura quelques adultes qui vont y goûter quand même.
J'espère être assez vieille pour ça.
Voilà, normalement ça devrait aller.
Marcus Malt, merci infiniment, et merci. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Si, au revoir.
18h30 sur Agora FM. Bon